Vous écoutez
RMC. RMC.
Jusqu'à 8h.
Tout ça pour tout là-bas.
Oh, wow.
Bien, lui, c'est un gars de construction.
Votre maison.
Attends, je fais tonneuse, please.
C'est tellement romantique, tes gars de construction.
Un artisan aime à savoir que son travail est apprécié.
Vous êtes carreleur, vous carrelez très bien.
François Sorel.
Mais vous carrelez trop. Quand je vous ai dit s'il en reste, vous les mettrez dans la chambre. Je parlais des cartons, c'est-à-dire on prend les cartons, on les met dans la chambre.
Christian Pessé.
Il m'a carrelé la moitié de la chambre. C'est-à-dire que j'ai moitié carreau et derrière, ça part tranquille en moquette.
Compagnon musicien, ici tout est fait mal. Il façonne.
Alors heureusement, les artisans carrelent rarement une chambre à moitié.
Hein, oui, c'est. Ben, ça dépend, ça peut être à mi-hauteur.
Oui.
Ah.
Bien sûr. Enfin, carrelage et moquette, c'est un peu bizarre quand même.
Oui, Muriel c'est Robin, le problème de la moquette, mais on ne pose plus beaucoup de moquettes au mur maintenant. Hein.
Non, ça c'est terminé.
Il y a eu une grande, oui, c'est vrai, une grande époque. Un ça a été, c'était un peu idiot. Mais
quand vous étiez jeune.
C'est-à-dire il y a quelques années.
Il y a quelques années, quelques
mois. Même encore, il y en a qui le font. Hein.
C'est votre maison sur RMC. Oui. On est là jusqu'à 8h avec Christian Pessé. Et en compagnie de notre invité, on va vous donner des bons conseils pour trouver le bon artisan pour faire des travaux.
Voilà, nous sommes avec Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB. Bonjour.
Bonjour.
C'est quoi la CAPEB?
À votre
C'est bon. Je devais le faire moi-même.
Non,
je ne savais pas.
Nous avons notre artisan du bouton qui est de l'autre côté.
Merci beaucoup à l'artisan du bouton de m'avoir ouvert le mien. Oui, non, la CAPEB est une organisation patronale qui défend en fait l'intérêt des artisans, des TPE du bâtiment, et qui leur permet de pas rester seuls dans leur coin, à chercher les bonnes informations. Donc nous défendons, nous représentons, et puis aussi on essaie de promouvoir la qualité artisanale, parce que comme je le sens bien depuis ce matin, vous allez dire que la qualité de l'artisan est primordiale
et reconnue. Voilà, c'est combien d'adhérents la CAPEB?
C'est 57 000 adhérents actuellement, qui espérons augmenter en
temps. On va dire que ça pèse, quoi.
Oui, bon, ça pèse.
Quand même. Donc, il y a pas mal de gens qui doivent vous écouter. On a déjà gagné 50 000 auditeurs ce matin.
J'espère bien.
Et j'aimerais bien qu'on gagne des questions. Profitez-en. Si vous avez des questions, si vous avez des projets de rénovation ou de travaux à la maison, appelez-nous dès maintenant 3216, l'appli RMC Direct Studio, avec votre numéro de téléphone.
Ne pas oublier. Ma première question, ça sera peut-être de dire, quand on veut entamer une rénovation, est-ce qu'il faut le faire par étape, par corps de métier, ou est-ce qu'il vaut mieux envisager du global ?
Dans une vie absolue et parfaite, bien sûr qu'une rénovation globale elle est souhaitable. Mais je pense que, comme dans chaque ménage, on fait toujours les chantiers étape par étape. Donc c'est pour ça que nous défendons auprès des ministères des parcours de rénovation qui permettent justement à un ménage de pouvoir étaler dans le temps la somme des investissements qui sont nécessaires pour pouvoir mettre le ménage et l'habitat à hauteur.
Alors ça veut dire que la notion de bouquet de travaux qu'on a vu il y a quelques années, ça ça n'existe plus, on met de côté, ça a échoué. Hein.
Vous êtes un spécialiste, vous avez vu que ça a bien marché. Bien évidemment, moi on a entendu dans la convention citoyenne qu'on parlait beaucoup de rénovation globale, mais on sait très bien que ça n'existe pas nos artisans qui nous écoutent et les particuliers savent très bien qu'ils vont pas partir à l'hôtel pendant un mois et demi pour rénover.
Oui, parce que c'est ça, suppose de vider la maison. Ça existe hein, quand même. Il faut le dire, il y a des spécialistes du sujet, c'est-à-dire que si vous avez une possibilité d'être logé ailleurs, chez les enfants par exemple, ou parce que vous avez une autre résidence par exemple secondaire, c'est... Bon, il faut le dire quand même, c'est l'idéal, si on peut...
C'est l'idéal.
En tout cas, le projet, lui, il doit être conçu dans sa globalité, on est bien d'accord.
C'est l'idéal, mais je ne suis pas sûr que vous ayez les objectifs atteints sur le nombre de rénovations nécessaires à la fin de l'année. Quoi.
C'est sûr. Alors, on va rentrer quand même dans le vif du sujet. Comment on peut trouver, comment on peut chercher d'abord et trouver ensuite un bon artisan? Alors, vous allez me dire qu'ils sont tous bons, mais on sait bien que c'est comme dans tous les métiers, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Alors, c'est quoi le critère? C'est les certifications? On parle beaucoup encore du RGE. C'est quoi?
Le premier des critères, me semble-t-il, il existe depuis des années. Quand on a un bon artisan dans la région, c'est le bouche à oreille. Pour ma part, j'ai repris l'entreprise artisanale de 1913. Je suis artisan électricien à Toulon.
Oui.
Et c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Quand vous avez vous-même une problématique de genoux, d'épaule ou de divorce, vous n'allez pas prendre dans l'annuaire le premier avocat ou le premier chirurgien. Donc vous allez voir autour de vous un conseil de qui a réussi une bonne opération de la prothèse ou qui a réussi son divorce. Et c'est exactement pareil pour l'artisan. Nous travaillons sur la durée, les artisans, nous sommes une économie de proximité, donc quand on rate un chantier, ça peut arriver, c'est une contre-publicité et il faut qu'on en rate le minimum. Donc du coup, c'est vraiment pour nous, le premier TripAdvisor, c'était le bouche-à-oreille. Et ça continue maintenant sur les sites de mise en relation.
Okay. Donc, mais attendez, voilà. C'est vrai, vous avez raison, mais c'est quand même pas forcément simple. On arrive dans une région, on achète une maison.
On ne connaît pas forcément des voisins qui vont nous dire tel ou tel artisan est bon.
Oui. Il y a quand même des critères. Alors, les critères, c'est quoi au niveau notamment de ce qu'on appelle les certifications, les labellisations, c'est quoi?
Après, si vous avez engagé des travaux qui sont spécifiques, et vous avez parlé tout à l'heure de MaPrimeRénov', sur des aides, donc toute la partie aidée, là, il faut être certifié pour pouvoir faire bénéficier à son client de l'aide.
C'est quoi,
donc,
c'est le RGE.
C'est le fameux RGE qui était d'abord Grenelle, puis Garant, donc le reconnu garant de l'environnement. Et ça, c'est des spécifications que l'artisan va passer dans des domaines de travaux.
Alors, faut pas se le cacher, ça a été quand même très décrié ces derniers temps. Vous voyez que le RGE, c'était un pain. On a vu des entreprises qui ont six mois d'inscription au registre du commerce ou de métiers et qui sont RGE. On s'interroge quand même, non?
C'est pas le RGE qui est tellement décrié, c'est surtout l'application et comment on s'en sert. C'est-à-dire que reconnaître une qualification sur un domaine de travaux, je trouve ça plutôt valable. Mais après, c'est des entreprises qui sont en capacité dans le modèle actuel, et c'est pour ça que nous on prône une façon différente de faire du RGE, c'est qu'actuellement avec un RGE par entreprise, vous avez 300 salariés, vous êtes qualifié.
Oui, c'est...
Et voilà, donc ça veut dire que...
Mais en plus, c'est par corps de métier, c'est-à-dire...
Par domaine d'activité, on va dire.
Donc on peut très bien avoir quelqu'un qui est RGE dans l'isolation, mais il ne le sera pas dans le chauffage, et s'il fait l'ensemble des travaux, alors qu'est-ce qu'il faut faire là?
Mais il faut faire par domaine d'activité, c'est évident, mais vous avez la capacité. Et on a vu la contre-publicité qu'on a eue sur les aides et les effets d'aubaine et les entreprises qui sont montées, notamment sur l'ITE, vous en parliez tout à l'heure. Il est facile actuellement de créer une boîte commerciale avec des commerciaux qui téléphonent, un RGE par domaine d'activité et derrière des sous-traitants qui, eux, pour le coup, ne sont pas qualifiés. Donc nous demandons, nous, à ce qu'il n'y ait pas de sous-traitance à outrance et qu'il y ait à minima un seuil de nombre d'employés qualifiés dans l'entreprise.
C'est ça.
Sinon, il est trop facile. Vous,
ouais, vous avez 300 personnes, comme vous le disiez, vous avez un RGE.
Et roulez jeunesse, vous faites le business. Et pour nous, artisans, qui sommes donc des entreprises à taille humaine, de 2 à 10, 15, 20 salariés, nous ne travaillons pas comme ça. Donc, du coup, nous demandons à ce qu'il y ait un seuil minimum de compétences dans l'entreprise.
Christine est avec nous au 32-16. Une question qui, à mon avis, est pour vous. Hein,
pour
à la fois Christian, mais aussi Jean-Christophe. Bonjour, Christine.
Oui, bonjour messieurs.
Oui, bonjour.
Christine Dugard. Voilà, donc je vous appelle Dugard, c'est le village qui est Sargues. J'habite une villa qu'on a fait construire il y a 35 ans maintenant.
Oui.
Et depuis 2-3 ans, nous avons les toitures, en fait, qui sont très habitées par du lichen, par des mousses. Donc je suis en permanence sollicitée par des personnes qui passent régulièrement et qui me proposent donc un nettoyage du toit avec certains produits, plus ensuite une application d'un isolant ou d'un voilà, quelque chose qui va éviter
d'un imperméabilisant.
Oui. Oui, voilà.
Vous en parlez souvent, ça, Christian.
Ben, oui.
Donc je me posais la question, est-ce qu'il est vraiment très utile de faire nettoyer les toitures et de les faire traiter pour éviter que les tuiles deviennent toutes poreuses et que ça crée en fait des micros fissures qui vont abîmer ensuite.
Je vois que vous avez eu des bons arguments qui vous ont été avancés. Alors bon, écoutez, je vais très vite répondre sur le plan technique et puis ensuite on pourra parler sur le plan d'entreprise. Parce que la question que vous posez induit d'autres interrogations sur la fiabilité des entreprises. Premièrement, les mousses, les lichens, à 95% n'abîment pas les tuiles. Point barre. Donc ça, c'est la première des choses. Une toiture, elle ne va pas devenir poreuse parce qu'il y a de la mousse dessus ou un peu de lichen. Normalement, d'ailleurs, les tuiles ne deviennent pas poreuses. Les fabricants de tuiles, notamment de tuiles de terre cuite, garantissent leur produit souvent pendant 30 ans. Et même souvent, lorsqu'il y a des pépins après, les tuiliers remplacent souvent les tuiles parce qu'ils savent que de toute façon, ça serait peut-être un problème de fabrication. Donc le premier point, c'est ça. Alors après, c'est une question esthétique. Si vous trouvez que c'est moche et que vous voulez avoir à nouveau une tuile toute neuve, évidemment, vous pouvez faire un nettoyage de tuiles. Mais là, il y a à ce moment-là, vous savez, les couvertures, c'est qui? C'est les couvreurs. Hein. Donc, adressez-vous déjà à un couvreur et ne cédez pas aux itinérants qui vont vous mettre de la poudre de perlimpinpin dans de la flotte pour nettoyer votre toiture et qui, dans le pire des cas, vont prendre un nettoyeur haute pression. Et là, pour le coup, vos tuiles vont devenir poreuses. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous propose l'imperméabilisation. Parce que les traitements qui sont faits généralement peuvent risquer de rendre les tuiles poreuses. Alors après, la problématique, elle est-ce que je peux faire confiance à des entreprises non identifiées? Je vais encore me prendre des mails parce qu'à chaque fois que je lutte contre la camionnette blanche, c'est-à-dire sans identification, on me dit, mais vous comprenez, il y a même eu un argument extraordinaire qui m'a été avancé il y a quelques semaines, tout juste quelques semaines, c'est j'ai ma camionnette blanche pour pas me faire voler mes outils. Eh ben moi, je dis que là, c'est c'est du de funeste, là. Hein. La question qu'on peut poser donc au président de la CAPEB, comment on identifie une entreprise sérieuse, c'est-à-dire celle qui a pignon sur rue?
Je dirais déjà pour l'auditrice, que quand on n'a pas de problématique par le toit, pourquoi recevoir un coup de téléphone d'une commercialisation, d'une démarchage? Déjà, le problème, moi déjà, quand je suis particulier, quand je me fais démarcher et que j'ai rien demandé à personne, je suis vraiment très sceptique. Après, que vous posiez la question vous-même après derrière de votre entretien de la maison, mais là, on est dans du confort et non pas dans la partie énergétique.
Mais alors, donc, ma question, elle porte surtout, à votre égard, c'est de dire, qu'est-ce qu'on peut demander à une entreprise pour voir si elle est fiable?
Alors, on est contre le démarchage, déjà d'une part. Oui. Ça c'est clair dès le départ, puis on l'a dit au gouvernement. Et après, derrière, on peut aller voir ses qualifications. Ce que vous faites jamais, vous particulier, et je vous incite à le faire de plus en plus, demandez les qualifications de votre artisan. L'artisan, logiquement, il est qualifié, il est assuré. Donc, ça fait maintenant plus de 35 ans que je travaille, j'ai peu de clients qui me demandent si je suis assuré, si j'ai ma décennale, si j'ai ma responsabilité civile, mes diplômes, mes qualifications.
Alors, les qualifications, c'est quoi, par exemple? C'est, par exemple, Calibat, des choses comme ça?
C'est des qualifications qu'on porte par Calibat ou par Califélec si on est électricien ou Calitener si on fait des énergies renouvelables. Mais c'est des qualifications, c'est notre CV, quoi, en fait. Et on a d'une part la clientèle avec qui on a travaillé et nos qualifications. Alors, je suis d'accord avec vous quand vous avez commencé par dire que l'artisan est qualifié de fait puisqu'il est inscrit au répertoire des métiers et il a un diplôme.
Oui, mais pas tous. Dans les itinérants comme ça, c'est pas forcément le cas. Il faut donc avoir le culot, je dirais, parce que c'est un peu ça. On est submergé, on est parfois fragile, on peut être âgé aussi.
Tout à fait.
Et donc là, il faut véritablement être capable de dire, bah, démontrez-moi déjà, on peut demander un cabis, hein, ce qu'on appelle.
Tout à fait.
Qui permet l'inscription.
L'inscription, le numéro de sirette, enfin, qu'on est vraiment pignon sur rue. Ces camionnettes blanches qui tournent et qui, avec le démarchage, et souvent dans les boîtes aux lettres ou direct,
c'est le coup de sonnette.
Coup de sonnette, et sont souvent des pièges auxquels, naturellement, il ne faut pas répondre.
Voilà. Alors, et ne laissez pas rentrer les gens chez vous.
Jamais.
Jamais. Hein. Et surtout, alors, à plus forte raison, quand ils sont deux.
Oui.
Je ne vais pas faire de procès d'intention.
On peut discuter avec eux, mais à l'extérieur.
À l'extérieur de chez vous demandez à ce moment-là les documents qui attestent de la régularité d'inscription aux organismes officiels, et puis aussi les qualifications, c'est ce que vient dire M. Repon.
Très bien, il est 8h-20, on va revenir dans un instant, on va encore poursuivre pendant quelques minutes.
Oui, on va parler de vie, hein, parce que ça c'est important.
Mais alors, voilà, combien de vie dois-je avoir avant de choisir?
Et qu'est-ce que comprend un devis? Parce que,
oui, il est écrit. Et que faire quand on a des écarts de prix importants sur deux mêmes travaux?
Oui.
Ça arrive parfois.
Oui, tout à fait.
On parle de tout cela dans un instant, vous êtes concerné, vous voulez réagir, 32-16, l'appli RMC Direct Studio, on vous attend, 8h-20, à tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC
jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian PC.
Comment trouver un bon artisan pour faire des travaux dans la maison? C'est le sujet qu'on évoque ensemble avec Christian Pessé et notre invité Jean-Christophe Répond, qui est le président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Christian, on a évoqué pas mal de sujets, on va dire, hein, d'axes quand on souhaite refaire sa salle de bain, sa cuisine, sa chambre. On va parler des devis maintenant parce que c'est important.
Oui, on va parler des devis parce que je pense qu'on n'est pas toujours assez exigeant sur la fiabilité du devis, sur ce qu'il doit comprendre. Alors, c'est quoi un bon devis ?
Un bon devis, il y a des passages obligés, c'est-à-dire qu'il y a des obligations à mettre des référentiels, notre inscription au répertoire des métiers, nos assurances.
Ça revient à ce qu'on vient de dire sur le sérieux de l'entreprise.
C'est le premier travail du particulier.
Mais après le détail, parce que on a des devis qui font 5 pages, puis on en a d'autres qui font une demi-page écrite au crayon.
Mais déjà, il faut privilégier celui qui fait 5 pages.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il faut voir le maximum de détails et d'informations.
Les mètres linéaires, le nombre de pièces, le prix individuel,
les prix individuels et la différenciation quand des fois on ne fait pas naturellement, nous artisans, main d'œuvre et fourniture. Donc ça c'est essentiel aussi. Mais nous, on est en capacité de pouvoir donner un prix et après l'expliquer. Et ça c'est essentiel aussi dans le dialogue que doit avoir le particulier avec l'artisan. C'est expliquez-moi s'il y a une différence de prix avec son concurrent. Pourquoi il y a cette différence de prix et qu'est-ce que vous me préconisez qui est différent?
D'accord. Plusieurs devis.
Plusieurs devis, oui. Voilà. Alors, en tant qu'artisan, j'aurais tendance à vous dire un seul.
Hein, oui, bien sûr.
Le mien, mais en toute sécurité, quand vous êtes particulier, faites faire au moins 2 devis. Oui, 2 devis. Après, si vous avez eu l'intelligence de travailler sur le bouche à oreille, vous avez déjà logiquement votre parti pris, mais vous avez la capacité de faire une réflexion, puis ça peut vous amener à faire évoluer aussi votre offre de chantier.
Alors, moi, j'avais juste une question. On fait 2-3 devis, il y a des écarts énormes entre 2 devis.
Eh ben là, c'est à l'artisan qui doit avoir un conseil, qui doit vous expliquer pourquoi il est plus cher que son concurrent et qu'est-ce qu'il a préconisé. Il doit expliquer le détail de son prix.
Et logiquement, et s'il n'est pas convaincant,
S'il n'arrive pas à expliquer son prix, c'est qu'il y a une petite anguille sous roche. Mais si logiquement un artisan passionné et qualifié va vous expliquer pourquoi il a prévu ça, et souvent il coûte un peu plus cher parce qu'il a prévu quelque chose. Il sait très bien, et notamment dans la rénovation, les pièges de la rénovation. Si vous faites pour tout artisan s'installant des prix basiques dans la rénovation, vous êtes sûr de perdre de l'argent régulièrement. Ouais. Quand vous tirez un trait au bas du devis à la fin, malgré que le particulier trouve ce devis très cher, vous perdez de l'argent en rentabilité, en prix de revient.
Est-ce qu'un devis doit être respecté à partir du moment où il est signé ?
Est-ce qu'ensuite la facturation doit être conforme au devis ou est-ce qu'on peut faire exploser le devis comment on le justifie ?
Je souhaite que les devis explosent, mais en accord avec le client. C'est-à-dire que si on a un devis initial qui est à tel prix, souvent on l'a vu souvent à la baisse parce qu'on avait un budget difficile, mais si dans les travaux, au fur et à mesure que vous avancez, vous faites des avenants et vous faites valider.
Voilà, vous l'avez dit, vous faites un avenant, c'est-à-dire que on peut pas venir vous dire, voilà, vous aviez 5000 euros de travaux, et puis arriver à la facture, dire, ouais, mais il y a eu une augmentation de 6 de ça, ça en fait 6. Non. Ça, c'est pas possible.
On fait valider les étapes par le particulier. D'accord. C'est-à-dire qu'on avait prévu X, genre, moi, j'allais dire des prises électriques, puisque je suis électricien. Si on a multiplié les prises électriques, il est pas compliqué de voir que le prix unitaire étant multiplié, vous allez,
mais est-ce qu'un bon artisan prévoit pas ce type de choses? En général, il sait que les clients vont peut-être demander une prise en plus, etc.
Oui, alors il y a 2 écoles. Moi, j'ai toujours prévu les trucs en plus, mais quand vous arrivez et que le client regarde que le prix final, il est difficile au départ de prévoir une installation au-delà de ce que a demandé le client. Il vaut mieux, dans un point de vue commercial, nous artisans, qu'on se fixe aux objectifs du client, et puis derrière parler avec le client pour dire on peut augmenter le devis. Mais ça, c'est toujours un dialogue entre l'artisan et le particulier.
Olivier est avec nous au 32-16. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Vous m'entendez bien ?
On vous entend, on vous écoute.
Parfaitement.
Bonjour. Oui, en fait, j'ai une interrogation, en fait. Je souhaite refaire faire mon conduit de cheminée.
Oui.
Et je ne sais pas comment choisir l'artisan, en fait, parce que j'arrive pas à m'imaginer, en fait, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une machine, en fait, un outil qui détruit l'ancien conduit de cheminée de ma maison ? pour l'agrandir, ou alors est-ce que en fait l'artisan doit passer dans toutes les chambres, enfin dans les pièces où, pour détruire complètement le conduit de cheminée et en repasser un nouveau.
Alors là, il y a d'abord une question technique, et puis après, vous allez, après, j'imagine.
Oui, et après, je me renseignais, en fait, est-ce qu'il faut prendre une assurance dommage d'ouvrage, parce que je pense que c'est quand même important,
Qui doit souscrire à cette assurance?
Alors d'abord, l'aspect technique. Le mieux, si vous pouvez, si vous en avez la possibilité, c'est de faire passer un autre conduit ailleurs. Donc vous prenez, vous allez prendre un conduit métal qui va être isolé. Vous allez pouvoir le passer éventuellement à l'extérieur ou à l'intérieur. Et puis vous allez laisser tranquille votre ancien conduit. Parce que sinon, ça va vous faire...
On condamne en quelque sorte.
Oui, alors attention, il y a des conditions tout à fait particulières et précises pour la condamnation d'un conduit, c'est qu'il doit rester ventilé. Donc ça, il faut un vrai pro de la question. C'est-à-dire que vous avez en fait une petite grille qu'on met en pied du conduit. En clair, on ne bouge pas le conduit. On ne bouge pas en haut et en bas, quoi. Parce qu'il y a des problèmes de condensation. Effectivement, une assurance dommage ouvrage sur ce type de travail est souhaitable, mais est très difficile à obtenir. C'est tout. La problématique.
Quel est le coût d'une assurance dans ce cas-là? Parce que ça doit être à peu près équivalent au coût d'un devis.
Globalement, une dommage ouvrage, ça coûte sur une maison entière, ça coûte entre 3 et 7%. En gros, je parle sous couvert du président qui m'écoute là. Sur un conduit, ça coûte pas très cher. Le problème, c'est qu'il va falloir pouvoir le trouver, et ça, c'est loin d'être évident. Ensuite, sur la fiabilité d'une entreprise concernant la fumisterie, c'est quoi? C'est pareil.
Avant de faire un devis comme ça, je pense que faut faire passer des artisans qui vous conseilleront sur réutiliser le conduit qui peut être réalisable.
S'il faut l'élargir, ça va être difficile, les conduits.
Là, comme ça, on peut pas dire, mais il faut regarder si c'est faisable. Sinon, le conseil de Christian de passer par l'extérieur et de refaire un nouveau conduit. Mais faites passer 2-3 artisans qui sont couvreurs, maçons.
Oui. Donc c'est la spécialité.
Voilà, et fumistes aussi, malgré le nom, qui sont compétents dans ce style de travaux.
Ça prouve qu'il y a eu quelques soucis dans l'histoire. Quoi.
Et après, c'est vrai que vérifier ce que je disais tout à l'heure, qu'ils soient bien qualifiés et assurés pour ces travaux-là. Et puis derrière, vous pouvez, vous aussi, prendre la décision de faire
tout. C'est quand même extrêmement sérieux, parce que c'est la sécurité qui est en jeu là, avec le risque de monoxyde de carbone. Donc il faut vraiment une entreprise très, très sérieuse. Voilà, on a fait quand même un bon tour d'horizon, M. Sorel. Hein.
Merci beaucoup, Jean-Christophe Répond, pour toutes ces précisions.
Vous êtes président de la CAPEB.
Et bon retour à tout le monde.